Jules Verne, Le Château des Carpates, chapitre 15. Le raccordement de la chapelle est-il fini, Orphanik ? Je viens de l'achever. Tout est préparé dans les casemates des bastions ? Tout. Maintenant, les bastions et la chapelle sont directement reliés au donjon. Ils le sont. Et après que l'appareil aura lancé le courant, nous aurons le temps de nous enfuir ? Nous l'aurons. A-t-on vérifié si le tunnel qui débouche sur le col du Vulcan était libre ? Il l'est. Il y eut alors quelques instants de silence, tandis que Orphanik, ayant repris son fanal, en projetait la clarté à travers les profondeurs de la chapelle. « Ah, mon vieux bourg !» s'écria le baron, « tu coûteras cher à ceux qui tenteront de forcer ton enceinte. » Et Rodolphe de Gortz prononça ces mots d'un ton qui fit frémir le jeune comte. « Vous avez entendu ce qui se disait à Brest ? » demanda-t-il à Orphanik. Il y a 50 minutes, le film a rapporté les propos que l'on tenait dans l'auberge du roi Mathias. Est-ce que l'attaque est pour cette nuit ? Non, elle ne doit avoir lieu qu'au lever du jour. Depuis quand ce Rotzko est-il revenu à Brest ? Depuis 2 heures, avec les agents de la police qu'il a ramenés de Karlsbourg. Eh bien, puisque le château ne peut plus se défendre, répéta le baron de Gortz, du moins écrasera-t-il sous ses débris ce Franz de Télek et tous ceux qui lui viendront en aide. Puis, au bout de quelques moments, « Et ce fil Orphanik, reprit-il, il ne faut pas que l'on puisse jamais savoir qu'il établissait une communication entre le château et le village de Brest. On ne le saura jamais, je détruirai ce fil. À notre avis, l'heure est venue de donner l'explication de certains phénomènes qui se sont produits au cours de ce récit, et dont l'origine ne devait pas tarder à être révélée. À cette époque, nous ferons très particulièrement remarquer que cette histoire s'est déroulée dans l'une des dernières années du XIXe siècle. L'emploi de l'électricité, qui est à juste titre considéré comme l'âme de l'univers, avait été poussé au dernier perfectionnement. L'illustre Edison et ses disciples avaient parachevé leur œuvre. Entre autres appareils électriques, le téléphone fonctionnait alors avec une précision si merveilleuse que les sons, recueillis par les plaques, arrivaient librement à l'oreille sans l'aide de cornets. Ce qui se disait, ce qui se chantait, ce qui se murmurait même, on pouvait l'entendre quelle que fût la distance, et deux personnes comme si elles eussent été assises en face l'une de l'autre. Depuis bien des années déjà, Orphanik, l'inséparable du baron Rodolphe de Gortz, était, en ce qui concerne l'utilisation pratique de l'électricité, un inventeur de premier ordre. Mais on le sait, ses admirables découvertes n'avaient pas été accueillies comme elles le méritaient. Le monde savant n'avait voulu voir en lui qu'un fou au lieu d'un homme de génie dans son art. De là cette implacable haine que l'inventeur, et conduit et rebuté, avait voué à ses semblables. Ce fut en ces conditions que le baron de Gortz rencontra Orphanik, talonné par la misère. Il encouragea ses travaux, il lui ouvrit sa bourse, et finalement il se l'acheta, à la condition toutefois que le savant lui réserverait le bénéfice de ses inventions et qu'il serait seul à en profiter. Au total, ces deux personnages originaux et maniaques, chacun à sa façon, étaient bien de nature à s'entendre. Aussi, depuis leur rencontre, ne se séparèrent-ils plus, pas même lorsque le baron de Gortz suivait la Stilla à travers toutes les villes de l'Italie. Mais tandis que le mélomane s'enivrait du chant de l'incomparable artiste, Orphanik ne s'occupait que de compléter les découvertes qui avaient été faites par les électriciens pendant ces dernières années, à perfectionner leurs applications, à en tirer les plus extraordinaires effets. Après les incidents qui terminèrent la campagne dramatique de la Stilla, le baron de Gortz disparut sans que l'on pût savoir ce qu'il était devenu. Or, en quittant Naples, c'était au château des Carpates qu'il était allé se réfugier, accompagné de Orphanik, très satisfait de s'y enfermer avec lui. Lorsqu'il eut pris la résolution d'enfouir son existence entre les murs de ce vieux bourg, l'intention du baron de Gortz était qu'aucun habitant du pays ne pût soupçonner son retour et que personne ne fût tenté de lui rendre visite. Il va sans dire que Orphanik et lui avait le moyen d'assurer très suffisamment la vie matérielle dans le château. En effet, il existait une communication secrète avec la route du col de Vulcan, et c'est par cette route qu'un homme sûr, un ancien serviteur du baron que nul ne connaissait, introduisait à date fixe tout ce qui était nécessaire à l'existence du baron Rodolphe et de son compagnon. En réalité, ce qui restait du bourg, et notamment le donjon central, était moins délabré que l'on ne le croyait, et même plus habitable que ne l'exigeaient les besoins de ses hôtes. Aussi, pourvu de tout ce qu'il fallait pour ses expériences, Orphanik put-il s'occuper de ses prodigieux travaux, dont la physique et la chimie lui fournissaient les éléments. Et alors, l'idée lui vint de les utiliser en vue d'éloigner les importuns. Le baron de Görtz accueillit la proposition avec empressement, et Orphanik installa une machinerie spéciale, destinée à épouvanter le pays en produisant des phénomènes qui ne pouvaient être attribués qu'à une intervention diabolique. Mais en premier lieu, il importait au baron de Görtz d'être tenu au courant de ce qui se disait au village le plus rapproché. Y avait-il donc un moyen d'entendre causer les gens sans qu'ils puissent s'en douter ? Oui, si l'on réussissait à établir une communication téléphonique entre le château et cette grande salle de l'auberge du roi Mathias, où les notables de Vrest avaient l'habitude de se réunir chaque soir. C'est ce que Orphanik effectua non moins adroitement que secrètement, dans les conditions les plus simples. Un fil de cuivre revêtu de sa gaine isolante, et dont un bout remontait au premier étage du donjon, fut déroulé sous les eaux du Niade jusqu'au village de Vrest. Ce premier travail accompli, Orphanik, se donnant pour un touriste, vint passer une nuit au roi Mathias afin de raccorder ce fil à la grande salle de l'auberge. On le comprend, il ne lui fut pas difficile d'en ramener l'extrémité, plongée dans les lits du torrent, à la hauteur de cette fenêtre de la façade postérieure qui ne s'ouvrait jamais. Puis, ayant placé un appareil téléphonique que cachait l'épais fouillis du feuillage, il en rattacha le fil. Or, cet appareil, étant merveilleusement disposé pour émettre comme pour recueillir les sons, il s'ensuivit que le baron de Görtz pouvait entendre tout ce qui se disait au roi Mathias et y faire entendre aussi tout ce qui lui convenait. Durant les premières années, la tranquillité du bourg ne fut aucunement troublée. La mauvaise réputation dont il jouissait suffisait à en écarter les habitants de Vrest. D'ailleurs, on le savait abandonné depuis la mort des derniers serviteurs de la famille. Mais un jour, à l'époque où commence ce récit, la lunette du berger Frick permit d'apercevoir une fumée qui s'échappait de l'une des cheminées du donjon. À partir de ce moment, les commentaires reprirent de plus belle, et l'on sait ce qui en résulta. C'est alors que la communication téléphonique fut utile, puisque le baron de Görtz et Orphanik purent être tenus au courant de tout ce qui se passait à Vrest. C'est par le fil qu'ils connurent l'engagement qu'avait pris Nigdeck de se rendre au bourg, et c'est par le fil qu'une voix menaçante se fit soudain entendre dans la salle du roi Mathias pour l'en détourner. Dès lors, le jeune forestier ayant persisté dans sa résolution, malgré cette menace, le baron de Görtz décida-t-il de lui infliger une telle leçon qu'il perdit l'envie d'y jamais revenir. Cette nuit-là, la machinerie de Orphanik, qui était toujours prête à fonctionner, produisit une série de phénomènes purement physiques, de nature à jeter l'épouvante sur le pays environnant. Cloches tintant au campanile de la chapelle, projections d'intenses flammes, mélangées de sel marin, qui donnaient à tous les objets une apparence spectrale. Formidables sirènes, d'où l'air comprimé s'échappait en mugissements épouvantables. Silhouettes photographiques de monstres, projetées au moyen de puissants réflecteurs. Plaques, disposées entre les herbes du fossé de l'enceinte et mises en communication avec des piles, dont le courant avait saisi le docteur par ses bottes ferrées. Enfin, des charges électriques, lancées des batteries du laboratoire et qui avaient renversé le forestier au moment où sa main se posait sur la ferrure du pont-levis. Ainsi que le baron de Görtz le pensait, après l'apparition de ces inexplicables prodiges, après la tentative de Nigdeck qui avait si mal tourné, la terreur fut au comble. Et, ni pour or, ni pour argent, personne n'eût voulu s'approcher, même à 2 bons milles, de ce château des Carpates, évidemment hanté par des êtres surnaturels. Rodolphe de Görtz devait donc se croire à l'abri de toute curiosité importune lorsque Franz de Télek arriva au village de Vrest. Tandis qu'il interrogeait soit Jonas, soit Maître Kolz et les autres, sa présence à l'auberge du roi Mathias fut aussitôt signalée par le fil du Niade. La haine du baron de Görtz pour le jeune comte se ralluma avec le souvenir des événements qui s'étaient passés à Naples. Et non seulement Franz de Télek était dans ce village, à quelques milles du bourg, mais voilà que devant les notables, il raillait leur absurde superstition. Il démolissait cette réputation fantastique qui protégeait le château des Carpates. Il s'engageait même à prévenir les autorités de Karlsbourg afin que la police vînt mettre à néant toutes ces légendes. Aussi, le baron de Görtz résolut-il d'attirer Franz de Télek dans le bourg, et l'on sait par quels divers moyens il y était parvenu. La voix de la Stila, envoyée à l'auberge du roi Mathias par l'appareil téléphonique, avait provoqué le jeune comte à se détourner de sa route pour s'approcher du château. L'apparition de la cantatrice sur le terre-plein du bastion lui avait donné l'irrésistible désir d'y pénétrer. Une lumière, montrée à une des fenêtres du donjon, l'avait guidée vers la poterne qui était ouverte pour lui donner passage. au fond de cette crypte, éclairée électriquement, de laquelle il avait encore entendu cette voix si pénétrante entre les murs de cette cellule, où des aliments lui étaient apportés alors qu'il dormait d'un sommeil léthargique, dans cette prison, enfouie sous les profondeurs du bourg, et dont la porte s'était refermée sur lui, Franz de Télek était au pouvoir du baron de Görtz, et le baron de Görtz comptait bien qu'il n'en pourrait jamais sortir. Tels étaient les résultats obtenus par cette collaboration mystérieuse de Rodolphe de Görtz et de son complice orphanique. Mais à son extrême dépit, le baron savait que l'éveil avait été donné par Rotzko, qui, n'ayant point suivi son maître à l'intérieur du château, avait prévenu les autorités de Karlsbourg. Une escouade d'agents était arrivée au village de Vrest, et le baron de Görtz allait avoir affaire à trop forte partie. En effet, comment Orphanik et lui parviendraient-ils à se défendre contre une troupe nombreuse? Les moyens employés contre Nigdek et le docteur Patak seraient insuffisants, car la police ne croit guère aux interventions diaboliques. Aussi, tous deux s'étaient-ils déterminés à détruire le bourg de fond en comble, et ils n'attendaient plus que le moment d'agir. Un courant électrique était préparé pour mettre le feu aux charges de dynamite qui avaient été enterrées sous le donjon, les bastions, la vieille chapelle. Et l'appareil destiné à lancer ce courant devait laisser au baron de Görtz et à son complice le temps de fuir par le tunnel du col de Vulcan. Puis, après l'explosion dont le jeune comte et nombre de ceux qui auraient escaladé l'enceinte du château seraient les victimes, tous deux s'enfuiraient si loin que jamais on ne retrouverait leurs traces. Ce qu'il venait d'entendre de cette conversation avait donné à Franz l'explication des phénomènes du passé. Il savait maintenant qu'une communication téléphonique existait entre le château des Carpates et le village de Vrest. Il n'ignorait pas non plus que le bourg allait être anéanti dans une catastrophe qui lui coûterait la vie et serait fatale aux agents de la police amenés par Rotzko. Il savait enfin que le baron de Görtz et Orphanik auraient le temps de fuir. Fuir en entraînant la Stila, inconsciente. Ah! Pourquoi Franz ne pouvait-il forcer l'entrée de la chapelle, se jeter sur ces deux hommes? Il les aurait terrassés, il les aurait frappés, il les aurait mis hors d'état de nuire, il aurait pu empêcher l'effroyable ruine. Mais ce qui était impossible en ce moment ne le serait peut-être pas après le départ du baron. Lorsque tous deux auraient quitté la chapelle, Franz, se jetant sur leurs traces, les poursuivrait jusqu'au donjon et, Dieu aidant, il ferait justice. Le baron de Görtz et Orphanik étaient déjà au fond du chevet. Franz ne les perdait pas du regard. Par quelle issue allait-il sortir? Serait-ce une porte donnant sur l'une des cours de l'enceinte ou quelque couloir intérieur qui devait raccorder la chapelle avec le donjon? Car il semblait que toutes les constructions du bourg communiquaient entre elles. Peu importait, si le jeune comte ne rencontrait pas un obstacle qu'il ne pourrait franchir. En ce moment, quelques paroles furent encore échangées entre le baron de Görtz et Orphanik. Il n'y a plus rien à faire ici? Rien. Alors, séparons-nous. Votre intention est toujours que je vous laisse seul dans le château? Oui, Orphanik, et partez à l'instant par le tunnel du col de Vulcan. Mais vous? Je ne quitterai le bourg qu'au dernier instant. Il est bien convenu que c'est à Bistritz que je dois aller vous attendre. À Bistritz. Restez donc, baron Rodolphe, et restez seul, puisque c'est votre volonté. Oui, car je veux l'entendre. Je veux l'entendre encore une fois, pendant cette dernière nuit que j'aurai passée au château des Carpates. Quelques instants encore, et le baron de Görtz, avec Orphanik, avait quitté la chapelle. Bien que le nom de la Stila n'eût pas été prononcé dans cette conversation, Franz l'avait bien compris. C'était d'elle que venait de parler Rodolphe de Görtz. Fin du chapitre 15.